France Inter, le 18-20.
Avec nous jusqu'à 19h, le cinéaste Robert Guédiguian, réalisateur de Marius et Jeannette, bien sûr, et plus récemment de Gloria Mundi, pour lequel Ariane Ascaride, sa complice de toujours, a obtenu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Robert Guédiguian, avec qui nous allons parler du moment que nous traversons, cette sortie de crise sanitaire qui se double d'une crise sociale sans précédent et d'un réveil de la lutte antiraciste. Il nous dira ce qu'il pense de tous ces sujets. Quant à savoir ce que les Français attendent du monde de demain, nous en parlerons également avec François-Mickey Marty, président du groupe Les Temps Nouveaux, qui viendra nous présenter le dernier baromètre Via Voice pour Libération. Également au sommaire de cette émission, préparée par Virginie Rouzic et Pierre Dessertaine, un reportage d'Hélène Chevalier dans un EHPAD où de nombreux résidents sont décédés pendant la pandémie. Et pour terminer notre rubrique Heureux déconfiné avec Antoine Lee ce soir, une rencontre avec un dentiste. À 19h20, notez-le déjà, le téléphone sonne sera consacré à ces mariages reportés, à ces enterrements en catimini, bref, à ces cérémonies qui n'ont pu se dérouler normalement en raison de la pandémie et qui ne peuvent toujours pas réunir le monde souhaité. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Nos deux standardistes, Siwen et Margot, attendent vos appels. D'avance, merci à elles, merci à Philippe Duclos et Patrick Henry à la console technique, ainsi qu'à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
L'air servageant. Le 18-20.
Bonsoir Robert Guédiguian.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 19h en direct de Marseille, où vous êtes, je crois, depuis la fin du confinement.
Oui, j'étais à Paris pendant tout le confinement. Ça fait une semaine que je suis à Marseille. Oui.
Et alors, dites-nous où vous étiez lorsque la crise a éclaté, parce que je crois que vous étiez en Afrique, à Dakar, c'est ça, pour votre prochain film?
En fait, plus exactement, j'étais à Saint-Louis du Sénégal, et c'était la troisième semaine de tournage, après deux mois de préparation aussi. Et on a appris quasiment simultanément, à une journée près, en fait, le confinement en France et les mesures aussi de couvre-feu, en tout cas, et d'interdiction de réunions publiques au Sénégal. Donc, on a été obligé d'interrompre le tournage. C'était, évidemment, après trois semaines de tournage, tout à fait affreux, quoi. C'est comme si on est en train d'écrire et si quelqu'un vous prend le poignet, vous empêche d'écrire, quoi. C'était très, et toute l'équipe était, en fait, ça se passait extrêmement bien avec, était à 70% sénégalaise, d'ailleurs, l'équipe est, et voilà, c'est tous promis de se revoir le plus vite possible pour finir cette aventure qui était entre nous, cette exploration, comme je dis toujours, parce qu'on n'a pas pour faire un film, on ne sait pas exactement quel film on va faire, on le sait un petit peu, on en a le pressentiment, mais enfin, on le cherche, et trois semaines, c'est le moment où on commence à le trouver, il m'est resté six semaines, et là, donc je suis très frustré, ça fait trois, quatre mois que je suis dans un état de frustration totale de ce point de vue. Quoi.
Je comprends. Quel est ce film que vous étiez en train de tourner? C'est sur les indépendances, c'est
oui,
ça
tout
d'il
à
y
fait.
A 60 ans?
Oui, parce que je crois que c'est une nécessité extrêmement forte aujourd'hui pour l'Afrique de se souvenir en fait de ces moments-là. Parce que dans les moments, dans le moment des indépendances, partout, hein, je crois dans toute l'Afrique, hein, évidemment je m'occupe plutôt du Mali, hein, c'est une histoire qui se passe à Bamako, mais que pour des raisons de sécurité on tournait au Sénégal, on avait reconstitué donc le Bamako des années 60 au Sénégal. C'est vrai que dans ces moments-là, dans ces moments d'indépendance, il s'est passé de très belles choses, de très beaux projets, une vraie dynamique sociale, une transformation forte en fait, émancipatrice en fait de ces pays-là. Tout ça a été laminé par, on va dire donc, des décennies de ce qu'on peut appeler encore aujourd'hui, on en parlera peut-être encore un peu tout à l'heure, de néocolonialisme et de prise du pouvoir par des barons locaux qui ont effectivement oublié très vite ces périodes exaltantes, mais je crois que donc il est bon de les rappeler et de les remettre en lumière en se disant qu'elles sont évidemment elles peuvent se reproduire demain matin. Il pourrait y avoir à nouveau ce type de moment de fête révolutionnaire, j'allais dire.
Vous dites que c'est important pour l'Afrique, mais c'est pas aussi important pour la France, par exemple?
Bien sûr, bien entendu. C'est je crois que c'est important. C'est important de revenir, effectivement, aussi, pour nous aussi, d'ailleurs, de revenir à une dynamique. Mais on y est quand même plus, je crois, nous, dans cette dynamique-là. Des manifestations qui ont recommencé tout de suite après le confinement.
Mais peut-être qu'on connaît moins cette histoire, en tout cas que les Africains, parce que c'est peut-être important de nous rappeler à nous ce qu'a été la colonisation.
Oui, pour la connaissance de cette histoire, bien entendu, c'est d'autant plus important aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est d'autant plus important aujourd'hui que les enfants ou les petits-enfants, effectivement, de gens, de ces pays, de gens colonisés, de ces pays qui ont été colonisés, sont toujours, effectivement, de manière consciente ou inconsciente, ostracisés. Une chose que j'aime beaucoup, c'est les manifestations en ce moment, je veux dire, qui se déroulent et qui prennent de l'ampleur et où les Français montrent qu'effectivement, les jeunes Français, d'ailleurs les très jeunes Français, montrent qu'ils ne veulent plus vivre dans un monde où le racisme existe.
C'est aussi ça qui remonte à la surface, hein, c'est cette histoire, la colonisation, l'esclavage qui revient à l'heure où le monde est secoué par la mort de George Floyd, c'est ça aussi, Robert Guédiguian.
Bien sûr, mais je crois qu'on ne fait jamais assez d'histoire. Je crois que, et c'est vrai que l'histoire, on pourrait dire les humanités en général, je veux dire, sont beaucoup moins enseignées qu'auparavant. Je veux dire, dans ma génération, en termes simplement d'heures de cours, il y en avait beaucoup plus. Je crois qu'il y en a moins aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment considérer que c'est une formation à la citoyenneté absolument vitale, en fait, de connaître notre histoire. Parce que si on connaît pas l'histoire, on se condamne à la revivre. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, comme toujours les premières générations d'immigrés venant des colonies, la plus évidemment de nos colonies, se sont tués, ont dû travailler, ont été surexploités, ont dû, bon, par-ci par-là, il y a eu des mouvements quand même historiquement. Mais là, la génération d'après en a plus cassé, quoi. On ne peut plus tolérer ça d'être, depuis donc deux, trois générations, dans cette discrimination. Et manifeste, en plus, le sentiment a gagné, vous savez comme moi, que bon, il y avait Adèle Haenel, il y avait effectivement a gagné des gens, et beaucoup, je dis Adèle Haenel pour dire quelqu'un de connu, mais a gagné beaucoup de gens qui, évidemment, sont blancs, sont français et ne sont pas des fils d'immigrés et qui participent de ce mouvement-là. Et il y a cette jonction, hein, dont on parle des luttes chez les jeunes gens, des luttes contre le racisme, bien sûr, mais des luttes aussi pour plus d'écologie et même des luttes sociales. Le discours de Traoré est très clair, est très clairvoyant.
Adèle Haenel, elle dit aujourd'hui dans Libération, il se passe enfin un truc politique en France. Vous partagez ce point de vue, Robert Guédiguian ?
Eh bien, elle a pas tort. Un truc, c'est pas un concept très précis, mais c'est vrai que elle a pas. C'est assez juste. Elle dit ça, elle parle pour elle, pour sa génération. Moi, je suis content que ça arrive parce que j'ai l'impression que ça va renouveler effectivement. Je crois que les partis politiques, en fait, je veux dire, ont tellement failli depuis 30, 40 ans, enfin, bon, peu importe, hein, je veux dire, on peut pas dater la date exacte, ils ont commencé à faillir, mais ont tellement été en dessous de leurs propositions. C'est-à-dire, de grosso modo, on fait exactement la politique. On laissait l'économie se développer, on laissait l'économie au volant, comme disait Keynes. Je veux dire, alors que c'est la politique qui doit être au volant, enfin, c'est ce qu'il disait, j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Et j'ai l'impression que, donc, les nouvelles générations se sont toujours méfiées des politiques et des partis politiques, et de dire, bon, il y a une espèce... Et les partis politiques sont entêtés à vouloir les intégrer. Je crois qu'aujourd'hui, les deux ont fait un pas. Je pense que c'est pour ça qu'elle a raison de dire qu'il se passe quelque chose de politique, et effectivement, elle parle de social, elle cite Angela Davis, je l'ai lu, le papier ce matin. Bon, Angela Davis, une révolutionnaire, marxiste, noire, américaine, etc., bon, tout le monde la connaît.
Et féministe.
Donc, j'ai l'impression que féministe, bien sûr. Et je crois que je pense qu'il y a certains les partis et les mouvements citoyens, ils commencent à faire un pas l'un vers l'autre, en fait. Parce que les partis ne veulent plus, il s'agit plus, comme on disait quand on était léniniste ou trotskiste, d'ailleurs, je veux dire, je sais plus, il y a un siècle, de noyauter, de récupérer, de faire de l'entrisme, de je sais pas quoi. Bon. Non, il s'agit de laisser les gens vivre leur manière à eux de militer, quoi. Bon, mais en même temps, les gens qui pensent ça, qui veulent vivre leur manière de militer, ils commencent aussi à se dire, eux, que s'ils n'ont pas un rapport à une organisation, il faut bien aussi qu'à un moment donné, ils prennent éventuellement du pouvoir, des pouvoirs, plusieurs types de pouvoirs, dans des institutions, dans les pays, entre guillemets d'ailleurs, qui sont quand même des pays démocratiques, toujours, pour appliquer effectivement des choses. Donc c'est vrai que j'espère d'ailleurs que ce qui va se passer dans plusieurs grandes villes municipales, et en particulier à Marseille.
Alors, Je vais être obligée de vous arrêter parce qu'on est en période électorale, Robert Guédiguian, et on va pas pouvoir détailler la situation à Marseille. On a des temps de parole, on est tenu à ça.
Ah non, mais je voulais pas d'ailleurs la détailler vraiment.
À la minute près et même à la seconde près. Alors, je vous assure, c'est trop compliqué.
J'y pensais pas.
En tout cas, j'ai bien compris ce que vous nous disiez, que il allait falloir organiser cette convergence des luttes entre la lutte contre le racisme, la lutte des classes, etc. Encore un mot quand même sur ce qui est en train de se passer par rapport à l'histoire, hein, parce que depuis quelques jours, on déboulonne des statues, pas uniquement en France, hein, dans pas mal de pays. Ici, par exemple, il y a aussi le Grand Rex qui vient de déprogrammer le film Autant en emporte le vent. Ça nous renvoie tout ça à notre passé. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
Non, ça de manière très claire, je suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'il faut raconter et contextualiser. Vous savez, un jour j'ai dit que par exemple sur les monuments aux morts de la guerre de 14-18 qu'il y a sur les places publiques, moi j'écrirais monument aux morts pour rien et pas monument aux morts pour la France. Voilà, parce que aucun soldat ne s'est battu pour la France à ce moment-là. Ils le croyaient, ils étaient abusés, ils se sont battus évidemment pour des profits impérialistes, c'est une guerre de brigandage. Donc ce type de choses, c'est-à-dire raconter. Moi je mets très bien sous la statue de Colbert ce qu'il disait en disant les Noirs sont des biens meubles. Je dis ça, c'est ce que je l'ai vu il y a pas longtemps, puisque j'étais au Sénégal
Il faut faire de l'information. Il faut expliquer ce qui s'est passé dans l'histoire.
Mais il faut pas nier l'histoire, il faut la raconter, je veux dire, dans toute sa vérité, parfois crue, parfois difficile à supporter. Et d'ailleurs, sans avoir de sentiment de, j'ai horreur de ces discours sur la repentance ou pas la repentance, etc. Évidemment que moi, si on me dit demain matin que Colbert était un raciste, ça c'est ce qui est sûr, certain et avéré, je ne me sens pas pour autant accusé en tant que Français. Enfin, je suis pas responsable de ce que disait Colbert. Je suis même pas responsable de ce que faisait mon père, d'ailleurs. Je suis responsable de ce que je fais moi. Voilà. Du coup, le discours qui tendrait à dire « Ah non, mais non, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, il faut pas... » Bon, parce que je trouve que c'est une espèce de pinaillage intellectuel ridicule, un peu, et crétin. Non, il faut dire les choses, il faut contextualiser. Mais il faut pas supprimer les personnages de l'histoire, bien entendu. Les enlever des photos, comme on dit toujours, hein, ce que faisait Staline, hein, de gommer les photos sur les photos des dirigeants qui avaient disparu. Sur les photos, voilà. Pour en faire, donc on refait pas l'histoire, mais c'est pareil, on interdit pas un film. Il a fait le tour du monde de 18, vous imaginez le succès que c'est ce film-là, je veux dire, il faut le laisser, mais il faut en parler.
Ce qui se passe en ce moment, cette vague antiraciste, elle nous renvoie aussi, Robert Guédiguian, à la question identitaire. On peut avoir des identités multiples, et si je vous demande ça, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que vous définissez vous comme Marseillais, Allemand, Arménien, Français, un petit peu tout ça, et que quand vous étiez petit, c'est arrivé qu'on vous traite de salboche, c'est ça?
C'est vrai.
C'est vrai, on peut concilier toutes ces identités?
Ben, je crois qu'elles se juxtaposent, les identités. Elles ne s'opposent pas. C'est une richesse, en fait, d'avoir plus. Je veux dire, il n'y a rien de pire, effectivement, que de parler de... Vous savez, je sais pas si c'est... Je crois que c'est Steiner qui disait, je ne suis pas un arbre, j'ai pas de racines, je me déplace. Hein. J'ai cette idée de l'ancrage dans le sol, je veux dire, est une idée extrêmement saugrenue, en fait, pour l'humanité. Hein. D'abord, l'humanité est toujours déplacée pour aller, évidemment, chercher de quoi vivre, tout simplement. Je veux dire, si la terre est mauvaise quelque part, on fait sans borne et on va à l'endroit où la terre est bonne pour ça s'est toujours passé comme ça. L'humanité n'a jamais été qu'une histoire de migration, depuis toujours. Et du coup, c'est vrai que l'identité est une chose, moi je dis toujours qu'on connaît son identité, ses identités, donc, on les connaît le jour de notre dernier souffle. On sait qu'on a été ça, ça, ça et ça. Et évidemment, dans l'identité, il n'y a pas que l'identité, bien entendu. L'identité, c'est comme on pourrait dire que c'est comme la biographie. Voilà. Et si c'est la biographie, évidemment, il y a aussi nos orientations politiques, nos orientations sexuelles. Il n'y a pas que notre identité, notre carte d'identité nationale, comme Sarkozy qui avait effectivement voulu créer un ministère éphémère, heureusement, de l'identité nationale, ce qui est ridicule. Donc on vient tous de plusieurs endroits, et c'est une richesse considérable, et je suis un internationaliste invétéré.
On va parler maintenant, Robert Guédiguian, si vous le voulez bien, du monde d'après, auquel beaucoup de gens ont réfléchi pendant le confinement, au plus fort de la crise. On a voulu croire à un monde meilleur, à un monde de partage. On va voir dans un instant avec avec François-Mickey Marty, qui va nous présenter le dernier baromètre de l'Institut Via Voice, ce qu'il en est vraiment, si on peut, si les Français, en tout cas, espèrent un changement. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, peut-être, retour sur une des réalités de cette pandémie, ce qui s'est passé dans les EHPAD. Les décès dans les EHPAD, il y en a eu 10 000 environ, ce qui représente à peu près un tiers du bilan total. Derrière les chiffres, il y a une situation particulièrement difficile à vivre pour les pensionnaires et les personnels. Un exemple avec ce reportage d'Hélène Chevalier à la résidence La Seigneurie de Pantin en Seine-Saint-Denis, où 27 résidents sont décédés. Les soignants se sont sentis abandonnés, en tout cas, ils sont épuisés.
Allons donc dans mon entre.
Depuis le début de la crise, le bureau de Fabienne Combeléron s'est transformé en réserve de matériel, des bidons de liquide hydroalcoolique, des cartons de masques et même des capes de pluie données par un parc d'attractions.
Avec Mickey dans le dos, en mettant les pressions et en achetant des manchons de cuisine, vous arrivez à protéger les bras et on les a en stock au cas où. Parce qu'il y a ce truc-là aussi, c'est si jamais ça redémarre.
Un résident qui tousse ou qui change de comportement et les soignants sont à nouveau en alerte. S'il n'y a plus aucun malade depuis 2 semaines, l'établissement a été durement touché par le Covid. L'équipe a perdu 27 de ses pensionnaires. Certains, présents depuis plus de 15 ans, étaient des figures de l'EHPAD.
Alors qu'ici, on les voit normalement au fur et à mesure se vider de leur force. Là, ça a été des fois les personnes en quelques heures nous quittaient quoi. C'est vraiment la grande faucheuse là, c'est vraiment l'image me vient, c'est vraiment ça, c'est décimé quoi, décimé.
Et ce qui a particulièrement marqué Fabienne Combeléron, c'est la prise en charge des corps.
On ne pouvait pas les habiller, il fallait vraiment les laisser tels qu'ils étaient décédés. Donc avec les vêtements avec lesquels ils étaient décédés et puis dans l'état dans lequel ils étaient quoi. On avait une interdiction de faire des toilettes mortuaires. C'est quelque chose qui est très important pour les équipes aussi. C'est un dernier au revoir. C'est l'ultime soin qu'on peut proposer aux résidents. Les mises en housse. On mettait les résidents en housse une fois qu'ils étaient décédés. Et après, les pompes funèbres, les mises en bière se faisaient directement dans les services, ce qu'on ne fait jamais. Donc, moi, j'ai accompagné un certain nombre de cercueils dans nos 3 bâtiments. Jusqu'aux chambres des résidents. C'était vraiment... Mais c'est vrai que le balai des cercueils, il va rester assez longtemps gravé dans la mémoire.
En plus de l'émotion provoquée par la succession de ces décès brutaux, le personnel a dû accompagner les familles, s'occuper des résidents malades, du service des repas dans les chambres, et cela avec une équipe elle-même touchée par le Covid. Pour la cadre de santé, il y a eu un véritable déséquilibre entre les moyens attribués aux hôpitaux et ceux aux EHPAD.
La réalité quand même, c'est qu'on est loin d'être servi en premier. Enfin, c'est curieusement, j'ai toujours trouvé ça paradoxal. On est à la fois... Attention, vous avez la population la plus fragile, etc., etc. Et à côté de ça, derrière, on est du sous-soignant. C'est vraiment aussi le ressenti des équipes sur un certain nombre de situations. On est un peu les soignants de seconde zone.
Et cela, elle a pu le remarquer en allant se faire tester.
Quand je suis allée me faire dépister à l'Hôtel Dieu, il y avait du matos de folie. C'était super. Et devant chaque porte, chaque box dans lequel on rentrait pour se faire dépister, il y avait une jeune femme qui était assise sur une chaise, dont la seule mission, après j'entends le circuit de l'hygiène, centre Covid et tout, c'était d'ouvrir la porte et de fermer la porte. Et moi je me disais, demain, est-ce que je vais avoir suffisamment d'aides-soignantes pour pouvoir nous occuper correctement de nos résidents quoi. Et le lendemain, j'en avais pas assez, évidemment.
Des soignants épuisés et profondément marqués pour qui la perspective d'une deuxième vague est insupportable.
J'ai des infirmières, des aides-soignantes qui me disent « Je ne pourrais pas supporter de revivre cette expérience-là au sein de l'institution une deuxième fois.
Ouais. » Depuis quelques semaines, des groupes de parole sont organisés pour le personnel. La directrice de l'EHPAD et Fabienne réfléchissent à organiser une cérémonie pour que résidents et salariés puissent ensemble saluer la mémoire des 27 résidents partis.
Reportage d'Hélène Chevalier. Précision aussi, les personnels des EHPAD ont eu la confirmation aujourd'hui qu'ils toucheraient bien une prime. Les textes ont enfin été publiés. Robert Guédiguian, il faudra se souvenir de ceux qui étaient en première ligne dans le monde d'après.
Je crois, et je suis, évidemment, c'est très bien qu'ils aient une prime, mais il ne s'agit pas de prime, il s'agit de repenser tout le système, parce que on attend avec impatience les annonces de Macron demain soir, de notre président, mais c'est vrai que il faut repenser complètement l'hôpital public, et il faut repenser la situation des EHPAD, c'est de manière tout à fait, en la déconnectant, je crois, du finance, des questions de budget, des questions de coûts, et des questions, je veux dire, il faut, dans le monde de demain, justement, pour reprendre cette expression, donc dans le monde d'aujourd'hui, du coup, il faut effectivement, je crois, déconnecter un certain nombre de secteurs de leur financement. Je veux dire, je crois évidemment que tout ce qui est santé, éducation, me semble à l'évidence devoir aujourd'hui être financé comme il le faut, comme il se doit, avec tous les moyens nécessaires. On ne peut pas abandonner quand même des choses qui appartiennent à la base même de l'humanité. On ne peut pas abandonner ça, effectivement, à la loi du marché. On ne peut pas abandonner ça, effectivement, à la loi du profit, etc., etc. Je crois que c'est une des choses qui a quand même bougé là d'une manière considérable avec cette pandémie.
C'est ce qu'on va voir. Hein. On va voir si effectivement ça a autant bougé que ça. Si les Français y croient, on va voir ça. Vous restez en ligne, Robert Guédiguian, parce qu'on accueille maintenant François-Mickey Marty. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue. Vous allez nous détailler cette enquête pour l'Institut Via Voice concernant le monde d'après, les attentes des Français. Mais je voudrais d'abord avoir votre réaction de citoyen à ce qu'on vient d'entendre, parce qu'il se trouve que vous avez perdu votre maman, qui est décédée en EHPAD pendant cette pandémie. Ça veut dire quoi? On a trop privilégié la vie biologique au détriment de la vie sociale?
Écoutez, alors merci d'abord d'en parler, parce que c'est pas si fréquent que ça, et on a tendance beaucoup à parler des terrasses de café et des parcs qui ouvrent, mais enfin, il s'est quand même passé quelque chose. Je crois ce qui m'a frappé, c'est le fait que cette rupture de la relation entre la personne qui s'en va et puis ses proches, pour des raisons tout à fait compréhensibles, hein, à l'origine de c'est la directive du 11 mars concrètement, des raisons tout à fait compréhensibles de préservation de la santé du plus grand nombre possible de gens, d'arrêter la propagation du virus. Mais le point qui me semble vraiment important est le fait que des personnes soient décédées sans avoir pu voir leurs proches. Et notamment dans la communication qui a été faite, on a souligné la douleur des proches, qui est très juste et qu'il ne faut pas, bien entendu, sous-estimer. Mais enfin, il me semble qu'il est nécessaire aussi de parler des personnes qui sont en fin de vie. Et ce qui m'a donc frappé, c'est ce tabou de la mort dans notre société, la difficulté à parler d'une personne qui meurt. Et ce que j'espère, c'est que si, au fond, cette épreuve terrible qui a été vécue par beaucoup de gens, hein, il y a 7752 personnes qui sont décédées en EHPAD sans avoir pu voir leurs proches, entre le 11 mars et le 19 avril, qui sont les dates légales. S'il y a quelque chose qui peut être tiré, je pense, ce serait de pouvoir se réfléchir sur l'image que l'on a de la mort et, au fond, lever un peu, autant que faire se peut, ce tabou qui fait qu'on laisse partir des gens, parfois, pas dans l'indifférence, mais tout au moins dans la distance, et en imaginant que ces personnes-là s'en vont sans avoir un regard, une main tendue des proches avec lesquels ils ont vécu. Voilà. Il y a un historien qui s'appelle Stéphane Audouin-Rousseau qui a dit la qualité d'une société, au fond, se mesure aussi à la manière dont on accompagne les mourants, voire après la mort. Là, de fait, et encore une fois, pour des raisons que je comprends tout à fait, mais on n'a pas du tout accompagné ces personnes.
On en vient maintenant, François-Mickey Marty, à ce baromètre de l'Institut Via Voice qui sera publié lundi par Libération. Son titre, Coronavirus, quelle vie d'après? Alors, il y a deux mois, tout le monde se disait, rien ne sera plus jamais comme avant. Robert Guédiguian, qu'on entendait à l'instant, nous disait pareil, hein, les choses vont forcément changer, mais à lire les réponses de cette enquête, c'est pas si sûr. En tout cas, les gens que vous avez interrogés, ils rêvent de changement, de prendre le temps de vivre, de passer du temps avec ceux qu'ils aiment, mais finalement, ils se disent, ce sera pas forcément possible.
Oui, c'est ce qui est très frappant. Alors, il s'agit d'une étude Via Voice qui est réalisée pour Libération. En effet, on a demandé aux gens, pas uniquement au fond dans quel monde ils espèrent vivre demain, mais dans leur vie à eux, quels sont les changements auxquels ils aspirent. La première chose, c'est de constater, comment dire, le côté très personnel, presque intime, des aspirations des personnes que l'on a interrogées. C'est-à-dire, au fond, d'abord, pour 71% des personnes interrogées, prendre le temps de vivre. Ensuite, passer du temps avec les autres, prendre soin de soi, de son bien-être, etc., etc. Je crois que ça révèle quelque chose qui est très important, qui est que cette crise, cette tragédie qu'on a traversée, a mis en lumière une part de vulnérabilité de nos existences. Et donc, on aspire aussi, d'une certaine manière, à se retrouver avec soi-même, avec les autres. Et comme vous le dites très justement, je crois que ça sera l'un des enjeux majeurs pour l'avenir, la plupart des gens que l'on interroge là se disent, oui, mais comment faire? C'est bien gentil de vouloir prendre le temps de vivre, se retrouver avec soi-même, avec les autres, etc. Mais enfin, il y a des contraintes familiales, souvent des contraintes professionnelles, des contraintes du monde dans lequel on est. Le vieux monde n'a pas dit son dernier mot. Et donc là, on a quelque chose qui est à la fois passionnant à observer, en même temps très prégnant, qui est la tension, l'articulation entre, au fond, un idéal, non pas nécessairement de changer toute la planète, mais déjà de changer la vie qu'on a, ici, dans les mois qui viennent, mais sans trop savoir comment le faire. Parce qu'en effet, comme vous le dites très justement, les règles du monde d'avant sont bien entendu toujours là. Donc on voit bien qu'on a une tension qui est très forte et que pour l'instant d'ailleurs le discours des entreprises et le discours politique ne prend pas véritablement en compte.
Ce qui est à noter, par exemple, on se souvient du discours, la première intervention d'Emmanuel Macron, je crois que c'était le 12 mars, quand la pandémie nous est tombée dessus, le choc était tel qu'il a dit on ne va pas laisser la loi du marché décider pour la suite. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la loi du marché, finalement, elle n'est pas partie très loin.
Oui, alors ça rejoint ce que disait Robert Guédiguian tout à l'heure. Il y a deux éléments qui sont très contraignants, en effet, cette loi du marché, et puis l'autre qui est les divisions croissantes au sein de notre société. J'ai utilisé un mot un peu fort, mais il me semble juste, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers une société de ségrégation, avec des groupes sociaux qui se replient sur eux-mêmes, ayant des visions du monde différentes, des aspirations différentes. Les gilets jaunes en sont un, les écologistes en sont un autre, les gens attachés à la famille traditionnelle, etc., etc., etc.
Des fractures, quoi.
Des fractures, mais au-delà de ça, le fait de ne pas vouloir entrer en relation avec d'autres groupes et le fait de ne pas se sentir reconnu par les autres groupes sociaux. Donc il y a un enjeu très important, me semble-t-il, pour ce monde qui vient dont vous parlez, qui est celui de la reconnaissance à attribuer à d'autres groupes. Il s'est passé des choses formidables pendant cette tragédie du coronavirus, des éléments de solidarité, des élans de reconnaissance envers un certain nombre d'acteurs, et qui est tout à fait à saluer, mais on voit bien ces ferments, à la fois des questions financières dont vous parlez là, mais aussi d'une société qui était déjà fragmentée par le passé et qui me semble aujourd'hui de plus en plus aller vers des formes de ségrégation qui, au fond, sont très pénalisantes pour les gens eux-mêmes, pour la société, pour les entreprises aussi, et pour la démocratie aussi.
Alors dans cette enquête, il y a des tas de questions qui ont été posées, mais il y a des, par exemple sur l'ISF, on voit que ça reste un point sensible.
Oui, alors ça fait partie des dans votre réflexion sur le vieux monde, oui. Le nouveau monde, ça fait partie des
le vieux
points
monde d'Adborest.
Exactement, ça fait partie des points extrêmement extrêmement fascinants, puisqu'on a les deux tiers des Français qui souhaitent le rétablissement de l'ISF dans sa formule complète, avec à la fois la taxation sur les biens financiers et les biens immobiliers. Bon, on a aussi un débat sur les 35 heures par ailleurs. Ça dit ça que on a aussi l'idée d'impatience liée à l'accroissement des inégalités, notamment avec une minorité de gens qui sont considérés comme très en haut dans la société, qui vivent très bien, quand d'autres, la plupart des personnes que l'on interroge, ont au contraire un sentiment de déclassement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la plupart des Français, plus de la moitié, estiment que leur situation se détériore dans la durée, et par ailleurs, notamment dans le contexte que l'on vit aujourd'hui, sont très inquiets de l'évolution des choses, que ce soit en termes économiques, mais aussi en termes sanitaires et en termes écologiques. Donc ce cocktail-là amplifie ces sentiments d'inégalité ou d'injustice qui peut appeler en effet à un retour de l'ISF. Alors on peut dire que ce sont de très vieux débats,
mais c'est toujours présent.
D'actualité.
Encore un mot de politique, François-Mickey Marty. On voit clairement dans votre enquête qu'Édouard Philippe a marqué des points et que le président, lui, il en a perdu, c'est très net.
Oui, alors il y a deux choses, alors c'est un peu un autre registre, mais il y a deux choses qui sont très frappantes. Bon, d'abord, Édouard Philippe est perçu d'abord comme le gestionnaire de la sortie de crise, du déconfinement, si l'on peut dire, là où Emmanuel Macron associait davantage son image au confinement, donc il est plus agréable d'apprécier celui qui déconfine plutôt que celui qui confine. Et puis, il y a des éléments beaucoup plus pragmatiques, à savoir que lorsqu'on travaille sur les registres de la confiance, qu'est-ce qui inspire confiance? Il y a trois choses qui comptent. D'abord, des mesures concrètes, et Édouard Philippe en a proposé un certain nombre. Deuxièmement, des choses qui se transforment dans la vie, qui ont un impact dans la vie quotidienne des gens, et ça a été le cas. Et puis, troisièmement, des mesures qui ont une vocation universel autant que faire se peut, au moins qui concerne un grand nombre de gens. Voilà, c'est pour cette raison-là notamment que les professionnels de santé sont appréciés dans leur registre à eux. Mais là, ce sont des éléments dont Édouard Philippe a su faire preuve. Donc, dans ce contexte-là, ça ne veut pas dire qu'il y a un blanc-seing pour la politique d'Édouard Philippe, mais dans ce contexte-là, il y a en effet un regain de popularité de plus 12 points, ce qui est quand même très rare dans des enquêtes d'opinion.
Ça veut dire quoi? Que demain soir, Emmanuel Macron va devoir trouver les mots justes?
Trouver les mots justes. Alors, pour Édouard Philippe, je ne sais pas, parce que Édouard Philippe est devenu un homme fort en termes d'opinion. Trouver des mots
par
justes.
Par rapport aux Français,
bien sûr, j'y viens. Trouver des mots justes pour tisser des liens. C'est-à-dire, au fond, je crois que l'histoire de France, si on peut prendre un peu de recul, s'est construite, et l'idée de la République, c'est toujours construite sur l'idée d'un progrès commun. Et aujourd'hui, c'est cette idée, non seulement en République, mais aussi de progrès commun qui fait défaut. Alors pour vous faire une confidence, nous sommes en train de créer un think tank qui s'appelle l'Alliance des Temps Nouveaux, qui est un think tank dédié à cette idée de progrès. Mais je crois que c'est cet élément-là qui nous manque beaucoup aujourd'hui. On le voit dans la rue, vous parliez tout à l'heure des manifestations. Qu'est-ce qui fait qu'ensemble, on a envie de bâtir un futur commun? Voilà, je crois que c'est l'un des éléments de réflexion qui va peut nous occuper pendant quelques mois.
Merci beaucoup François-Mickey Marty. Je crois que ça rejoint ce que disait effectivement Robert Guédiguian. Il faut une convergence des envies. C'est ça qui manque aujourd'hui, Robert Guédiguian. Un projet, on va l'appeler comment, un projet politique ?
Oui, il manque un projet politique qui effectivement fasse que chaque effectivement groupe, catégorie sociale, couche, classe, on disait avant aussi, hein, je veux dire, il retrouve son compte. En fait, hein, je crois que c'est la seule manière en fait d'arriver à défragmenter, si je reprends le terme utilisé par l'enquête, la société française. Mais pour le faire, c'est vrai que pour le faire, je crois vraiment que, bon, l'ISF, c'est pas un hasard, mais que tout le monde le réclame, fait ça apparaît comme une évidence, mais enfin absolue, quoi. Je crois que le discours là a changé, c'est-à-dire le discours de ceux qui prônaient, dont j'ai toujours fait partie, évidemment une réforme fiscale extrêmement forte, quoi, hein, je veux dire, et une taxation du capital comme une taxation à égalité avec les taxations du travail. Je crois que là, on a quand même, je veux dire, nous qui étions dans ce cas-là, on a quand même gagné des points. Je vois pas comment, effectivement, si ce n'est les gens impactés directement. Je crois que le problème politique, il est un peu là. C'est les gens impactés directement, c'est des couches moyennes, en fait, pour les appeler comme ça rapidement. Ce sont elles qui votent et ce sont elles, effectivement, qui se disent qu'elles vont peut-être laisser quelques plumes, alors que c'est pas du tout ça. Si on lit attentivement les travaux de gens comme Piketty, enfin, de toute son école et tout ça, moi, je crois qu'il a cherché de ce côté-là, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le financement. Je crois encore que la bouffe vient avant la morale, comme disait Brecht, quoi. Je veux dire, je crois que toutes les problématiques viennent aussi de la quantité de laissés pour compte, hein, qui sont carrément hors du système, complètement. On sait qu'il y a c'est pas des territoires perdus de la République, c'est des territoires abandonnés par la République depuis des décennies. Bon. Donc je crois qu'il faut faire quelque chose, effectivement. Il faut partager avec eux, et pour qu'ils reviennent, il faut partager vraiment, quoi. Sinon ils ne reviendront pas. Ils ont bien raison de travailler un truc, de rester chez eux. C'est-à-dire, je comprends leur sentiment à ce moment-là de se débrouiller entre eux. S'ils ne se débrouillaient pas entre eux, ils ne survivraient pas, d'ailleurs. Puisqu'effectivement, nous leur donnerions, la France ne partage plus. Et surtout, je pense qu'il faut les réamener à les reconduire dans les bureaux de vote, en fait, voilà. Parce qu'effectivement, toute la politique française s'est faite sur le vote des classes moyennes depuis des années, des couches moyennes. Bon, évidemment, les couches moyennes ont tellement peur d'être précipitées dans des couches plus basses, d'aller rejoindre effectivement ces gens qui sont complètement exclus, qu'elles ont plutôt quand même tendance à voter effectivement pour tout ce qui maintient ce système, pour tout ce qui veut le maintenir, et ce qui le maintient d'ailleurs depuis des années. Je crois que c'est là qu'il y a quelque chose, ça va être difficile, mais je crois que toutes les manifestations possibles et imaginables, c'est dans les manifestations que se construisent effectivement les solidarités quand même, et je crois que les gens n'oublieront pas là qu'ils ont applaudi pendant des semaines et des semaines les hospitaliers, qui les soutiendront demain matin et qui ne diront plus que ce sont des privilégiés parce qu'ils partent à la retraite quelques années plus tôt. Enfin bon, voilà. Je pense que ces discours-là doivent cesser. Et j'espère que... Ils ont cessé d'ailleurs pendant quelques temps. Donc pourquoi reprendraient-ils le dessus de...
C'est toute la question.
Voilà. Alors les combats vont continuer.
On va poursuivre, Robert Guédiguian, la réflexion, mais on va écouter un petit peu de musique avec une chanson qui va vous parler. Gagner son pain, c'est Gaëtan Nonchalant.
Faudrait croire toujours en l'amour.
gagner son pain. Gaëtan Nonchalant, choix musical de Muriel Pérez.
France Inter. Le 18-20.
Toujours en compagnie du réalisateur et producteur Robert Guédiguian, qui est en direct de Marseille. La crise du coronavirus a provoqué une crise politique et sociale, Robert Guédiguian. Aucun secteur n'est épargné, et à commencer par le monde de la culture, puisque les cinémas, notamment, sont toujours fermés et rouvriront dans quelques jours. On sait que les temps seront difficiles pour ceux qui travaillent dans ce secteur. De votre côté, du côté de votre société de production, je crois que vous avez taillé dans certains salaires, et notamment dans le vôtre.
Ah ben oui, bien sûr. Si vous voulez, je suis obligé quand même. C'est la moindre des cohérences que j'applique effectivement les principes que je prône tout le temps. Je veux dire sur la propre société de cinéma qui est d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, qui est un collectif en fait. Donc bien entendu que les 7-8 patrons d'ailleurs de cette société sont on a diminué tous nos salaires de 20% pour maintenir plein pot les salaires de tous les autres. Avec l'aide du chômage partiel aussi bien sûr, mais jusqu'à en fermer la boîte jusqu'à fin août quoi, voilà, grosso modo, parce que je pense qu'on va faire un film, théoriquement on devrait arriver à faire un film en septembre-octobre.
Un autre film avec votre bande habituelle, avec
Non, moi je ferai le film. Moi je reprendrai mon film au Sénégal en octobre, mais c'est un autre film produit par Patrick Sobelman, un film qui devrait se tourner donc en septembre-octobre. Et il y a des documentaires qui ont déjà repris, hein, mais des tournages documentaires sont quand même beaucoup plus simples.
Et votre film, donc, vous allez retourner au Sénégal pour continuer dans peu de temps. Je crois qu'il va y avoir aussi un documentaire sur le même sujet.
Non.
Il n'y a pas un documentaire annoncé, non. Alors mon information.
On a fait une série qui va être diffusée bientôt, mais qui est pas directement sur le même sujet. Mais on a fait 3 fois 1 heure sur le colonialisme. Voilà, on a fait de l'histoire. Comme on fait plus d'histoire à l'école, nous avec notre maison de production, on en a fait pour la télévision. Et c'est pour France 2. Et c'est 3 heures que moi j'ai vu évidemment depuis déjà 2 mois, qui seront diffusées bientôt et qui sont tout à fait enfin exceptionnelles.
Dans cette crise du coronavirus, Robert Guédiguian, la ville de Marseille restera associée à un personnage, le professeur Raoult, et à son traitement à base d'hydroxychloroquine. Alors, on va pas rentrer dans le fond du débat, des querelles médicales, mais c'est quand même un vrai personnage de film, non, ce professeur Raoult?
Oui, y compris physiquement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de voilà quoi. Donc il a une gueule, une prestance. Enfin, je veux dire voilà.
Pourquoi est-ce que chaque fois qu'il s'est exprimé, ouais, que ses soutiens se sont exprimés, des détracteurs ici et ailleurs, on a eu l'impression qu'on rejoint un match au MPSG. Il y avait un côté comme ça entre Marseille et Paris, non?
Oui, c'est une vieille querelle, ça existe, c'est encore une affaire, vous voyez, on parle beaucoup d'histoire, c'est une très vieille histoire, donc elle ne ça sera pas du jour au lendemain, je vous dirais, c'est vrai que, et c'est le rapport d'ailleurs général de Paris à la province, ça ne s'arrêtera pas demain, on est là aussi, tout le monde dit qu'effectivement les choses sont mieux passées, par exemple en Allemagne où c'est décentralisé, je veux dire, c'est vrai que il y a une urgence de décentralisation en France, mais ça fait longtemps qu'elle existe, cette urgence, même si la centralisation a très bien fonctionné, a donné des résultats historiquement. Je vous dis, c'est l'histoire. Alors c'est vrai que ce conflit réapparaît traditionnellement. D'ailleurs, vous savez, c'est Colbert qui avait fait construire, lui aussi, encore lui,
encore
qui
lui.
Avait fait construire les deux tours à l'entrée du Vieux-Port et dont les canons sont tournés vers la ville. C'était pour mater les révoltes, hein. c'était pas pour se défendre des agresseurs venus d'ailleurs.
Robert Guédiguian, on est dans une séquence bien particulière, avec toujours cette fameuse distanciation, ces gestes barrières. Comment on fait quand on est cinéaste pour faire tourner les gens avec ces distances et ces gestes barrières? C'est compliqué ou pas? Allez, vous avez une minute pour me répondre, parce qu'après malheureusement ce sera terminé.
En fait, je pense que c'est quasiment impossible. Hein, c'est-à-dire que j'espère que tout ça va s'arrêter très très vite, que cette épidémie va carrément être finie, quoi, éteinte. Pour qu'on puisse tourner, parce que sinon je pense en tout cas il y a des scènes impossibles, c'est vrai que on ne va pas se contrôler toutes les 5 minutes avant de s'embrasser au cinéma, je veux dire on va pas pendant sa température avec les acteurs, enfin tout ça, et Moi, je suis assez content d'avoir finalement, là pour le coup, je parlais de frustration tout à l'heure, je suis plutôt assez content que les choses reprennent pour moi qu'à la fin octobre. À la fin octobre au Sénégal, j'imagine qu'on tournera exactement comme avant le coronavirus. C'est-à-dire sans aucune contrainte. Peut-être on peut ne pas se serrer la main ou pas s'embrasser, mais en tout cas pour les acteurs et puis pour la chaleur, la convivialité du plateau, j'espère qu'effectivement on n'aura plus tous ces gestes barrières et cette distanciation.
Voilà, et pour ça il faut revenir au monde d'avant. Un grand merci Robert Guédiguian d'avoir passé ces trois quarts d'heure en notre compagnie. Un très grand merci à vous. On va passer pour terminer à notre rubrique Heureux déconfiné ce soir. Antoine Lee nous propose une rencontre avec un dentiste, une profession qui retrouve le sourire, si l'on peut dire, avec le déconfinement. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Je me suis rendu dans le cabinet de Anthony Atlan et c'est avec beaucoup de bonheur que ce chirurgien dentiste a pu retrouver progressivement ses patients. Mais pour cela, il a dû renforcer les mesures de protection sanitaire.
Là, on est rentré dans le cabinet habillé, donc j'ai ma charlotte, mon masque, ma surblouse. Je vais aller me laver les mains avec un savon antiseptique. On va bien passer entre tous les endroits, c'est quelque chose qu'on est censé apprendre au début de nos études.
Quel est le plus gros risque pour vous dans votre profession ?
En fait, tout simplement, le dentiste travaille à proximité du nez et de la bouche. On a quasiment la tête dedans. Et à partir du moment où vous avez une vaporisation, une nébulisation, la création de micro-gouttelettes en suspension dans l'air, ces micro-gouttelettes, vous pouvez, vous, les aspirer, les ingérer, et donc ça peut créer une infection par voie aérienne supérieure. Et c'est aussi pour ça qu'on nous demande d'aérer fortement le cabinet pour que tout ça dégage et parte à l'extérieur. En l'occurrence, dans ce cabinet et dans de plus en plus de cabinets, on utilise ce qu'on appelle une digue dentaire. C'est, je vais vous montrer, c'est une espèce de feuille de latex dans laquelle vous faites des trous. Et dans chacun de ces trous, on va passer les dents. Ce qui fait que si vous avez besoin de soigner une dent, le patient a cette feuille de plastique au niveau de la bouche. Donc il peut tousser, il peut faire ce qu'il veut. Tout va être retenu par ce champ opératoire. Et ça, c'est une protection très efficace vis-à-vis de la salive et donc potentiellement du virus. Ça, c'est une pièce à main à ultrasons. Ça nous permet effectivement de faire les détartrages.
Quelles sont agréables.
Moi, j'aime bien.
En fait, ce son qui est bon, c'est vrai que c'est pas le plus sympa. Eh ben, nous a manqué un peu. Hein.
Ah, ben, ça me fait plaisir que vous disiez ça.
Est-ce que vous savez s'il y a des patients qui ont eu peur de revenir voir des dentistes comme vous ?
Bien sûr. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt les deux extrêmes. C'est soit des patients vraiment qui se disent non, attendez, les dents, c'est gentil, mais on va attendre et voir ça pour plus tard. Et des patients qui disent attendez, moi, j'en ai marre, j'étais confiné, ça y est, j'ai envie de reprendre ma vie et j'ai envie de pouvoir faire les soins sur mes dents tels que je l'avais prévu. Et voilà.
Quel est l'impact du Covid sur vos affaires ?
Pendant 2 mois, le Conseil de l'Ordre a demandé aux dentistes de fermer leur cabinet, purement et simplement. Donc, en termes de revenus, c'est 2 mois blancs, 0 euro, rien du tout.
Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous venez dans votre cabinet, vous êtes serein ou vous avez peur par rapport au Covid ?
Alors, personnellement, je suis tout à fait serein parce qu'on a fait, à mon sens, ce qu'il fallait pour pouvoir l'être. Donc je pense que j'ai une plus grande probabilité d'attraper le virus à la terrasse d'un café, dans un supermarché ou quoi que ce soit, plutôt qu'ici où on fait particulièrement attention, même si en théorie le risque est plus élevé ici.
On rappellera quand même que les cafés, restaurants et supermarchés ont eux aussi pris des dispositions sanitaires. En tout cas, Claire, vous l'avez compris, vous pouvez faire votre petit bilan dentaire sans souci.
Eh ben me voilà rassurée. Merci beaucoup Antoine Lee, c'était la rubrique Heureux déconfiné. Dans un instant, le journal de 19h, ce sera avec Yves Decamp. Ensuite, à 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on va revenir sur ces cérémonies empêchées en raison de la pandémie, mariage, enterrement, toutes ces cérémonies qui ont été donc impactées. On en parle au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à nous appeler. Nos deux standardistes, Siwen et Margot, attendent vos appels. Alors n'hésitez pas, appelez-les. Nos invités seront là pour vous répondre.